des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Petites ou grandes, stimulantes ou inhibantes, les émotions font partie de notre vie. Mais d'où viennent-elles? Comment notre cerveau les interprète-t-elle? Le siège des émotions, c'est le quatrième volet de notre série d'émissions consacrée aux émotions avec le docteur Dominique Desmichel. Docteur Dominique Desmichel, nous avons vu dans nos précédentes émissions l'importance des émotions. Alors nous avons plusieurs fois abordé, bien sûr, le siège des émotions et le siège des émotions, c'est notre cerveau. Tout part de là. Est-ce qu'on en est sûr, ça au moins?
Je ne sais pas bien répondre à votre question. Je pense que les émotions, c'est dans tout le corps. Puisqu'on a vu que quand on a de l'émotion, on
les nœuds dans le ventre aussi, bien sûr,
la respiration, la bouche sèche, le cœur qui s'accélère, etc. Disons qu'il y a un système régulateur et initiateur, contrôleur, différenciateur, modulateur, tout ça. Et ça, en gros, c'est quand même le cerveau. Ouais.
C'est le cerveau. Ouais. Mais je veux dire, on en arrive à quelque chose de très mécanique. Est-ce que les émotions peuvent être réduites? C'était ça ma question, peuvent être réduites à quelque chose de mécanique, de connexion, même si c'est une mécanique extrêmement complexe. Ou bien on a encore des incertitudes et puis la porte ouverte vers peut-être autre chose, une autre...
C'est impossible de répondre à cette question parce que la science ne répond absolument pas à la question du pourquoi. Elle ne répond que à la question du comment. Hein. Donc dans votre question, il y en a deux. Il y en a une qui est physique et je vais vous dire ce qu'on sait actuellement. Et probablement, c'est déjà un tout petit peu dépassé. Et puis surtout, il y a des gens qui en savent beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais que probablement, dans 6 mois, ou raison de plus, dans 10 ans, on dira sûrement autre chose. Et que dans ce que je vais vous dire, il y a sûrement des bêtises. Voilà.
Oui, parce que
il y a une autre question, oui. Qui est la question métaphysique. Après la physique, il y a la métaphysique. C'est-à-dire, quel sens ça a? Mais ça, la science, elle ne répond pas à cette question-là.
Dans notre précédente émission, vous aviez évoqué Mathieu Ricard, qui est donc moine bouddhiste. Est-ce que je me dis en l'écoutant qu'il est quand même de bonne composition après tout ce qu'il a fait, toute l'étude qu'il a fait sur le bouddhisme, sur la méditation, pour accepter qu'on lui pose des électrodes sur le cerveau et qu'on lui dise bah finalement voilà, c'est des petites lumières qui s'allument, mais vos 15 ans d'études et de méditation se résument à une image cérébrale.
Non, parce que... Enfin, je ne sais pas ce qu'il en pense, il faudrait peut-être lui poser.
S'il a fait l'expérience, c'est donc qu'il doit être bien...
Voilà,
on s'entend, hein,
et puis, globalement, c'est quand même un spiritualiste, hein, il me semble, fondamentalement. Mais moi, en tout cas, personnellement, je l'ai encore redit ce matin, vous voyez, à l'hôpital de Chartres, à l'occasion de notre petite réunion de 9h, tout est 100% dans l'âme ou le psychisme et 100% dans le corps. Hein. Donc... la question de savoir comment ça s'articule et d'où vient l'intention, c'est extrêmement compliqué et probablement on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, pour vous donner quand même un petit exemple, c'est que lorsque vous commencez une action, par exemple, un exemple simple, tiens, j'ai le bout du nez qui me gratte, je lève mon doigt et puis je vais me gratter le bout du nez ici. Environ un quart de milliseconde avant que vous décidiez de le faire, l'ordre est déjà parti. Donc, il vient de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que notre conscience. Hein. Donc, il y a quelque chose probablement en amont, mais je dirais c'est un amont ontologique, un amont d'être. C'est pas simplement un amont organique qui fait qu'il y a quelque chose qui surgit. Hein. Souvent, on dit « Ah, je pense que… » Mais dans la réalité, c'est « Des pensées me viennent. D'où est-ce qu'elles viennent ? Je sais pas. » Le psychanalyste dirait il y a cet inconscient qui est immense et qui contient probablement toute notre histoire personnelle depuis notre conception, mais aussi probablement une partie de cet inconscient familial, transpersonnel aussi, collectif, qui nous appartient. Vous qui êtes plus jeune que moi, vous avez probablement un inconscient plus vaste que le mien parce que vous avez hérité de tout ce qu'il y a avant. Voilà.
Ben merci pour ce préambule. Mais nous allons maintenant nous pencher sur le cerveau, cette formidable, cette incroyable machine. Alors, où siègent les émotions ? Commençons par le cerveau peut-être déjà.
Voilà.
Ouvrons un crâne et voyons ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors d'abord, le cerveau, c'est quoi ? Tout le monde sait que c'est à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cerveau, il est composé de ce qu'on appelle la substance blanche et la substance grise. Pourquoi on les appelle comme ça ? Parce que quand on fait une coupe de cerveau, il y a la périphérie qui apparaît relativement grise et il y a le centre qui apparaît relativement blanc. En gros, la substance grise, donc qui est à la périphérie, c'est-à-dire juste en dessous de l'os, hein, et puis il y a les méninges, il y a l'os, il y a les méninges, puis ensuite il y a cette qui fait quelques centimètres d'épaisseur, hein, ce sont les noyaux des cellules. Voilà. Et puis la substance blanche, c'est tous les câbles. Alors, comme il y a énormément de cellules, il y a énormément de câblage, et en termes de volume, il y a beaucoup plus de volume de câbles que de volume du disque dur, on pourrait dire. Hein. Voilà. Les cellules qui sont à l'intérieur du cerveau et celles qui vont partir du cerveau, descendre dans la moelle épinière et aller jusqu'au bout de nos pieds, pareil pour les organes sensoriels d'ailleurs, ça s'appelle des neurones. Ces neurones, il y en a environ 100 milliards à peu près, donc on dit 10 puissance 11. Je vous rappelle, pour faire un ordre de grandeur à peu près, qu'on a 1000 milliards de cellules dans notre corps. Hein, donc ça représente à peu près 10% des cellules de notre corps. Je rappelle aussi, histoire de se rappeler qu'on est tous des aliens, c'est qu'on a un tout petit peu plus de bactéries à l'intérieur de notre corps que de cellules dans notre corps entier. Hein. Le rapport, aux dernières nouvelles, parce que pendant longtemps on a dit autre chose, le rapport doit être d'environ 1,4. Hein. Donc on a 40% de plus de cellules étrangères à nous-mêmes, essentiellement dans notre intestin, mais aussi dans nos poumons, sur notre peau, enfin il y en a partout, plein des bactéries partout, plus que ça. Donc on retient 100 milliards, donc 10 puissance aux os de neurones, et probablement chaque neurone a des petits filets de connexion, qu'on appelle des dendrites, environ entre 5 et 8 000, mettons 7 000 dendrites à chaque fois. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a 10 000 synapses, c'est-à-dire il y a les dendrites, c'est-à-dire les petites prolongations comme ça. Mais de temps en temps, il y a contact à contact. Donc il y a juste, sans qu'il y ait des petites dendrites, il y a des contacts.
Alors puisqu'on en est sur les généralités sur le cerveau, il y a cette idée reçue comme quoi on n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau. Je dis idée reçue. Hein.
Oui, je ne sais pas répondre à votre question. Je
vous l'avez entendu comme moi, voilà.
Oui, ouais, je l'ai entendu. Je pense que ça tient essentiellement à notre ignorance de comment marche le cerveau. Voilà. J'aurais un peu des doutes là-dessus. Ce que je crois, c'est que comme on ne sait pas très bien où est stockée l'information, par exemple, on ne peut qu'observer ce qui se passe quand ça fonctionne. Voilà. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Par exemple, le stockage de la mémoire dans le cerveau, c'est quelque chose qui reste encore très, très mystérieux.
On sait pas. Et puis, a priori, on n'a pas beaucoup d'organes qui sont inutiles dans notre corps, quoi. La nature n'aime pas trop ça, a priori.
Non, c'est vrai, en sachant qu'il y a des organes de temps en temps qu'on enlève et on vit très bien sans. On peut très bien vivre sans vésicule biliaire, on peut très bien vivre sans appendice, on peut. Voilà, il y a des choses dont on peut se passer comme ça. Et puis, ce qu'on peut dire, mais peut-être c'est moins vrai pour l'humain, on sait par exemple que chez un grand nombre d'animaux, il y a des organes qui ne servent pas à grand-chose, mais qui seraient potentiellement là dans le cadre d'une évolution. Hein. C'est-à-dire, on pourrait dire, par exemple, le poisson, potentiellement, il a dans son corps la possibilité d'avoir un jour des pattes et donc de se retrouver sur l'eau, ou d'avoir potentiellement des ailes et donc de pouvoir se transformer en oiseau, ou d'avoir potentiellement des poumons et un jour de pouvoir respirer. Donc, vous voyez, c'est compliqué tout ça, comme si, au fond, une espèce de phylogénèse, hein, c'est-à-dire développement de la vie, anticipait déjà quelque chose de l'avenir. Alors, peut-être que je ne sais pas trop quoi, on aura une petite place un de ces jours qui va se développer dans notre cerveau pour pouvoir y installer un relais direct avec Internet. Je blague quand je dis ça, bien sûr.
Alors, entrons plus en profondeur dans notre cerveau et dans cette substance grise.
Oui. Alors, la substance grise, l'essentiel de la substance grise est donc sous le crâne. Mais il y a une autre partie de substance grise, donc vous voyez, c'est pas du câble, hein, c'est vraiment la partie ordinateur, qu'on appelle les noyaux gris profonds. Ça veut dire quoi ? C'est pas à la périphérie, c'est en profondeur dans le crâne, au milieu, enfin au milieu, mais de chaque côté, hein, puisqu'on a, c'est à peu près symétrique le cerveau. Ces noyaux gris centraux, c'est le thalamus. Je vais dire un tout petit peu ce que c'est. Le noyau codé, le putamen, le pallidum. On ne va pas développer tout ça. Un tout petit mot sur le thalamus, parce que c'est quelque chose de très très important. Toutes les informations qui arrivent à notre corps, à part l'odorat, qui ne passe pas par là, toutes les informations qui nous viennent passent par le thalamus. Pour comprendre de manière simple, si je vous demande, par exemple, à vous, Simon, des nouvelles de votre gros orteil gauche, jusqu'à que je vous pose la question, vous n'y pensiez pas du tout. Mais si je vous pose la question, vous allez peut-être me donner des nouvelles de votre gros orteil gauche en me disant qu'il est un tout petit peu serré finalement dans votre chaussure, qu'il faudrait peut-être, ou je ne sais pas trop quoi, où vous allez avoir un souvenir, mais peut-être une sensation. Toutes ces informations-là, de votre gros orteil gauche un tout petit peu serré, arrivent à votre thalamus en permanence. Simplement, votre thalamus dit « c'est pas très très important ». Par contre, si je viens marcher, même doucement, sur votre gros orteil gauche, il va y avoir une modification de l'information et le thalamus va ouvrir un petit clapet et l'information, quelqu'un est en train de marcher sur mon gros orteil gauche, qui va monter à votre cerveau et du coup, vous allez adapter, c'est-à-dire « Eh, monsieur, vous êtes en train de marcher sur mon orteil gauche » ou « Vous allez retirer votre pied » ou je ne sais pas trop quoi, enfin, vous allez vous adapter. Donc, vous voyez, toutes ces informations arrivent et de temps en temps, elles arrivent et elles vont entraîner quelque chose d'automatique sans presque passer par votre conscience. Par exemple, si, pour reprendre l'exemple qu'on a dit il y a quelque temps, si vous avez le bout du nez qui vous gratte, certes, vous allez percevoir que le bout du nez vous gratte, mais vous allez de manière quasi automatique aller vous gratter le bout du nez. Et ça ne va pas interrompre le fil de votre conversation, le fil de votre pensée, ça ne va pas vous empêcher de regarder le film, ça va être semi-conscient, voilà, avec des tas de choses qui sont automatiques. Donc ce thalamus, c'est quelque chose qui est très 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 important. Et on voit, par exemple, pour dire un tout petit peu ce qu'il en est de la pathologie, ça permet de comprendre, on voit que de temps en temps, il va y avoir des accidents douloureux dans le corps qui vont monter une information pénible et durable, hein, par exemple quand on a une fracture au niveau du thalamus, et de temps en temps ce thalamus garde une information douloureuse qui va continuer à envoyer des informations au niveau du cerveau, et on appelle ça des séquelles thalamiques.
Le fameux syndrome du manchot qui se gratte sa main qui a disparu.
Oui, ça c'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça peut être d'une origine thalamique, mais il y a plusieurs niveaux où ça peut, voilà, mais c'est ce qu'on appelle la main fantôme en effet, ou le syndrome du membre fantôme. Voilà, il y a des techniques de rééducation d'ailleurs qui sont faites pour, avec un jeu de miroir ou avec un ordinateur et un film, on rééduque le cerveau, c'est-à-dire on fait une sorte de fausse main que la personne voit de ses yeux. Et du coup, avec le cortex préfrontal en particulier, on va y revenir un peu plus tard, cette personne apprend à réguler cette émotion, c'est-à-dire à pouvoir la supprimer.
Alors, le cerveau peut être divisé en quatre grands territoires.
Voilà, alors ça, c'est des choses que les gens connaissent un tout petit peu. En gros, il y a ces territoires, c'est le territoire frontal, le territoire temporal, le territoire pariétal et le territoire occipital. Le territoire frontal, c'est le front. Le front, c'est ce qu'il pense, c'est l'abstraction, ça nous aide à réfléchir et un petit peu à tout ça. Les lobes temporaux, en gros, donc c'est sur les côtés. Les temporaux, c'est du côté des tempes, de chaque côté. Pour faire un tout petit peu court, c'est le langage. On va voir un petit peu qu'il y a aussi d'autres fonctions. Voilà. Les lobes pariétaux, on va dire, ce sont les sensations, essentiellement les organes des sens, à part l'odorat qui est un petit peu à part. Et puis aussi tout ce qui est anticipation et préparation de l'action, en sachant que cette préparation, cette anticipation de l'action va être ensuite transmise à une aire motrice, qu'on appelle le cortex moteur. Et on sait bien que la décision d'une action, quand je suis en train de vous parler, vous voyez par exemple, je mobilise ma main droite, voilà, j'accompagne comme ça, et cette action est envoyée dans le cortex moteur 350 millisecondes, donc un tiers de seconde, avant qu'on en ait conscience. Donc vous voyez, c'est très étonnant, c'est-à-dire la décision de l'action et commencer le processus électrique qui va commander une action et décider, enfin démarre avant qu'on en ait conscience ou avant qu'on le décide. Vous voyez, ça reste très très mystérieux. Dernier lobe, le lobe occipital, c'est juste à l'arrière du crâne ici et c'est la vision. Voilà.
j'ai chanté une chanson que Faraday aime beaucoup qui s'appelle « Des millions de larmes ». Alors celle-là, je l'ai chantée exprès pour elle.
Des millions de larmes, des millions de pleurs ont noyé mon âme, ont noyé mon cœur. Et j'aurais beau faire, le temps passera, triste et solitaire, à pleurer pour toi. Tu ne sais pas, mon grand amour, toi qui peut-être es parti pour toujours. Tu ne sais pas, quand tombe la pluie, que c'est mon chagrin qui passe dans ta vie. Que ce sont mes larmes qui s'en vont vers toi et qui t'accompagne au loin tout là-bas. Des millions de pleurs ont noyé mon cœur, et pourtant j'espère, je compte les jours. Et des nuits entières, j'attends ton retour. Et comme avant, je serai là, le jour béni où tu me reviendras. Tu n'auras qu'à me tendre les bras, mais en attendant, je soupire tout bas. Et pleure mon âme, pleure mon cœur, des millions de
Docteur Dominique Desmichel, donc nous savons que le cerveau dit limbique, c'est là d'où partent les émotions.
Voilà, il intervient dans la gestion des émotions.
Alors, où se trouve-t-il ce système-là ?
Alors, il se trouve en profondeur dans le cerveau, un petit peu au... C'est difficile de dire sans des images, mais c'est assez au centre. Hein. Alors, on en a un à gauche, un à droite, il y a toujours la même chose, assez au centre. C'est dans une région relativement médiane, hein, donc assez au centre. Voilà, système limbique. Limbique, ça s'écrit L-I-M-B-I-Q-E. Ce système limbique, c'est une sorte de cerveau, mais de cerveau sous-cortical. Hein. Voilà, c'est pas lié à notre conscience. Donc ce cerveau limbique, il fonctionne de manière entièrement autonome. Nous, on n'y fait rien là-dessus. On peut arriver à influencer certaines choses, mais c'est de manière indirecte. Voilà, on ne gère pas, comme on l'a vu, les émotions. Ils ne relèvent pas de notre conscience. Et dedans, il y a plusieurs éléments, l'amygdale, l'hippocampe, l'insula et le striatum. On va essentiellement parler de l'amygdale.
Oui, c'est la partie donc la plus importante
Oui. Pour
ce qui nous occupe.
Voilà, c'est en tout cas celle qu'on connaît probablement le mieux actuellement. C'est une toute petite structure, amygdale, ça veut dire petite amande, que nos auditeurs ne confondent pas avec les deux amygdales qu'on a au fond de la gorge, hein, qui sont aussi comme de petites amandes, et qui là sont une sorte de ganglion qui interviennent pour défendre notre gorge contre les infections. L'amygdale, c'est donc avant tout le lieu de la mémoire émotionnelle, de cette mémoire qui nous fonde, et de cette mémoire émotionnelle inconsciente.
Hein. Alors c'est une mémoire qui me fonde moi personnellement, c'est ma mémoire à moi ou oui. C'est la mémoire de l'humanité ?
Non, c'est d'accord. Une mémoire inconsciente qui est, où l'information s'est stockée à partir de nos expériences.
Même s'il y a bien sûr des informations qui sont les mêmes pour tout le monde. S'il y a une voiture qui fond sur moi, cette émotion-là, elle va être à peu près pareille pour tout le monde.
À partir d'un apprentissage personnel.
Ah oui, d'accord. Hein, c'est-à-dire voilà. Que si, oui, évidemment, si j'ai jamais vu de voiture...
Voilà. Alors, je reprends votre exemple parce qu'il est quand même intéressant, même si on s'éloigne, tant pis, on verra un tout petit peu. Comment, au fond, on apprend à avoir peur ? On apprend à avoir peur essentiellement à partir de l'expérience. Les nouveau-nés, par exemple, jusqu'à 3 mois, en gros, ils n'ont absolument pas peur. On pourrait dire même que jusqu'au 7e mois, ils vont dans les bras de tout le monde. L'enfant, à partir du 8e mois, il sait reconnaître les gens qu'il connaît, en gros les parents, les frères et sœurs, les papis, les mamies, la nourrice, le voisin, le cousin, les cousines, etc. Et il sait les reconnaître et il sait différencier. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle, dans le développement de l'enfant, l'angoisse du 8e mois. Et donc, à ce moment-là, il ne va pas aller dans les bras de tout le monde. Regardez un enfant qui a 3 mois, 4 mois, un tout petit qui a 3-4 mois, vous le mettez dans les bras d'un étranger, voilà, le plus souvent, s'il a vécu une vie normale, il ne va pas avoir peur. Donc cet apprentissage se fait par la reconnaissance de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Mais aussi d'une espèce d'objectivité du faciès de l'autre. Hein. On a remarqué, par exemple, que la quasi-totalité des poissons qui ont une gueule effrayante, eh ben, il vaut mieux les laisser passer s'ils ont envie de passer. Parce que, comme s'il y avait une sorte d'analogie entre le visage et ce qu'il exprime, dans le savoir que nous en avons, et la dangerosité des gens. Donc, vous voyez, par rapport à la voiture que vous disiez, je pense que la voiture, elle n'est pas menaçante. Simplement, un enfant, il a appris, quand il était petit, que ses parents lui disaient « Non, t'as 1 an et demi, tu sais à peine marcher, pas question que je te laisse traverser la rue tout seul, tu me donnes la main et on y va quand je décide et de toute façon, voilà, je vais t'expliquer, mais c'est pas négociable. »
Et par contre, un serpent qui passerait, il pourrait, ou alors une araignée, il pourrait avoir de la peur du coup, voilà. Parce que ça c'est...
Il a de la peur s'il a acquis une expérience.
D'accord, même si ça se...
Tout à fait. Je pense d'ailleurs que par rapport à des animaux potentiellement dangereux, l'enfant, spontanément en tout cas, il a pas peur du tout et... Voilà. Sauf si il va entendre, je sais pas, le rugissement d'un lion et que le rugissement, ou en raison de l'étrangeté du bruit, ou en raison de son ressenti émotionnel d'une potentielle agressivité, ou parce que ça va lui rappeler autre chose qui lui a fait peur, peut-être ça, il va avoir peur. Mais en soi, non. Vous voyez, hein? Donc c'est essentiellement.
Donc c'est vraiment la mémoire de notre émotion propre liée à un apprentissage.
Liée à nos expériences. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, cette mémoire-là, dans l'amygdale, elle est reliée à un petit organe qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, ça a une forme un petit peu d'hippocampe, comme une espèce de petit poisson, là. Cet hippocampe, il n'est pas le lieu de stockage de la mémoire, mais il est le lieu qui semble-t-il, régule la manière d'aller chercher les informations. C'est comme une espèce d'explorateur de documents qui va chercher toutes les informations partout dans le cerveau, puisqu'il semble bien que la majorité des événements dont on garde la mémoire soient stockés partout dans le cerveau, ou alors en tout cas, on ne sait pas très bien. Donc toute activation de l'amygdale active l'hippocampe, et on sait très bien qu'un événement est mémorisé à la mesure de la charge émotionnelle qu'il contient. Si vous avez une poésie que vous avez à apprendre et qu'elle vous barbe et que c'est nul et que vous avez envie de faire tout sauf d'apprendre la poésie, ça va être extrêmement galère. Si vous la trouvez superbe, si vous savez que le lendemain, vous avez les grands-parents qui viennent et que vous allez leur réciter de la poésie et qu'ils vont vous applaudir en disant « mon petit chéri » ou « ma petite chérie, c'est merveilleux pour les poésies », eh bien, ça va vous aider. Parce que là, ici, votre amygdale va vous promettre en quelque sorte quelque chose de positif et donc que potentiellement, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose. Donc, la mémoire, c'est la tour de contrôle de nos émotions.
Et elle va réagir, cette mémoire, par rapport à des stimuli extérieurs, par exemple, une odeur, une...
Voilà.
Elle se met en éveil, quoi. Elle est endormie, elle se réveille.
Voilà. Alors, il y a d'autres systèmes, on verra, en particulier, il y a un système qui scanne plein de choses. Mais cette mémoire, elle est d'abord et avant tout le siège de la peur.
Donc on comprend bien l'importance de l'éducation.
Oui.
Par rapport à tout ce que nous avons dit sur la peur, sur la mémorisation.
Voilà, d'accord. Voilà. Et en sachant que ces objets qui viennent nourrir ici le savoir de l'amygdale, ce sont en effet des odeurs. Si ça sent le brûlé à l'intérieur, vous allez tout de suite avoir votre vigilance qui va être au maximum. Ça peut être des sons. Il y a des sons qui sont perçus comme dangereux. Hein. Si vous avez un son à 80 décibels qui retentit dans la pièce, vous allez être vigilant. Si c'est une petite musique douce, ça va vous apaiser. Ça peut être des images, ça peut être des rencontres, ça peut être plein de choses. Et il faut se rappeler aussi que l'amygdale est très très active pendant nos rêves aussi. C'est pour ça que souvent, il y a une vraie charge émotionnelle dans les rêves. Comme vous le disiez, la tranquillité de l'amygdale, son calme ou son agitation, le fait qu'elle soit stimulée ou au contraire qu'elle se tienne relativement tranquille, c'est très très dépendant de l'éducation que l'enfant a reçue. Si celui-ci grandit dans une atmosphère tranquille, si l'adulte lui montre ce qui peut être juste, ce qui va l'aider à grandir de manière positive, alors, surtout s'il n'y a pas de violence, d'agressivité, donc de peur, si l'enfant vit dans un climat tranquille, le plus souvent, il va avoir une amygdale qui va être performante, pertinente, mais qui ne va pas s'emballer pour un oui, pour un non. Hein ?
Alors, qu'en est-il de notre rapport à l'autre ? Comment réagit notre amygdale ?
Alors, oui, ça, c'est une question importante parce que... Dans certaines circonstances, on peut être amené à avoir un ressenti négatif vis-à-vis de l'autre. Et on sait que l'amygdale s'active lorsque on nuit volontairement à l'autre. Elle envoie d'ailleurs le plus souvent un message qui a l'air d'être assez corrélé avec, la transgression, l'importance de la transgression, voire la possibilité d'une sanction. On sait aussi que cette amygdale est très très active lorsque un individu se livre à un acte grave. Et on retrouve ça, par exemple, dans la notion de culpabilité. Et ça rejoint, il me semble, ce que vous disiez par rapport à l'éducation avant, puisque si un enfant a été élevé, par exemple, avec un système éducatif très très culpabilisant, très culpabilisant, alors à chaque fois qu'il va y avoir, il va faire un petit écart, il va y avoir son amygdale qui va lui envoyer des signaux bip, 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 danger, 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 danger. Et vous voyez, ça peut être, évidemment, c'est très très utile, hein, la culpabilité. Hein. Je rappelle très souvent que c'est le premier rempart contre le meurtre, hein, beaucoup plus que le gendarme extérieur. Mais en même temps, ça peut être quelque chose d'extrêmement pesant s'il y a des signaux d'alarme qui arrivent pour la moindre petite chose.
Hein. On voit là qu'on touche aussi à des critères moraux, alors.
Voilà. Voilà. Dans cette activation de l'amygdale, d'ailleurs, la réalité même de la transgression ou du ressenti n'est pas obligatoire. Si, par exemple, on vous montre des images qui vont induire à l'intérieur de vous-même des émotions, hein, par exemple des images de réfugiés en plein hiver, hein, votre amygdale s'emballe, vous avez un sentiment de culpabilité, et donc là, il y a une émotion. Donc, on voit bien l'importance de l'éducation. Et si en effet très tôt on vous a habitué par exemple à regarder des images terribles sans émotion, eh bien vous risquez quand même de devenir un tout petit peu peut-être mal adapté à la société. Si au contraire il y a une espèce de surinvestissement émotionnel pour la moindre petite chose, vous risquez de surréagir à des événements qui peut-être nécessiteraient pas une telle activation de l'amygdale.
Et j'imagine que des accidents graves de la vie peuvent contribuer après à modifier ce phénomène. J'imagine que si même si à 30 ans on vit une guerre, au sortir de cette guerre, nos émotions sont plus tout à fait les mêmes, on réagit pas de la même manière forcément à des événements extérieurs.
Voilà, tout à fait. Alors on connaît ça peut-être moins maintenant pour les guerres, ou en tout cas il faudrait demander à des gens qui accompagnent les soldats par exemple après des conflits,
ou les migrants, ou les
voilà. Mais on le sait, par exemple, dans ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Hein, c'est-à-dire, les gens ont vécu un événement très, très difficile. On a vu ça, par exemple, pour tous ceux qui étaient enfermés au Bataclan ou ceux qui ont vécu les attentats à Paris, par exemple. Ils ont un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire, pendant l'événement, leur amygdale a fonctionné à tour de bras de manière durable. Et ensuite, il suffit qu'il y ait une porte qui claque, vous voyez, et à ce moment-là, l'amygdale se remet à réagir. Ça, on va y revenir dans la suite, on apprend à calmer l'amygdale. Voilà. Et je terminerai juste, mais on reprendra ça là-dessus, en disant que, vous voyez, par exemple, un enfant qui a peur pour s'endormir le soir parce qu'il a peur de cauchemars, de monstres, de sorcières, d'ogres ou d'autres choses comme ça, c'est un enfant qui n'arrive pas à calmer son amygdale, ou en tout cas, dans l'amygdale, s'active de manière disproportionnée par rapport à la situation.
À Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre cette série sur les émotions.